Voilà, nous allons terminer par cette série, donc Veux-tu être son disciple? Nous avons vu croire en Jésus, nous avons vu être baptisé, recevoir l'Esprit Saint, être un membre eh bien, du peuple de Dieu, nous avons vu vivre dans le corps et cette fois-ci, donc cette dernière leçon, c'est être un chrétien engagé. Voilà, il nous est dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Voyez? Frères et sœurs, c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, eh bien, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Voyez? Le service que le Seigneur demande de nous dans la communauté est à la fois pratique et spirituel. Et nous allons le voir plus en détail. Vous voyez, c'est pas simplement, vous voyez, la vie chrétienne, je suis né de nouveau, je viens régulièrement, vous voyez, à l'église, tout cela, mais c'est aussi une vie de service. Vous voyez. Donc servir la communauté de façon pratique. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples dans Actes chapitre 6, verset 2 et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Vous voyez, il y a dans l'Église des services pratiques. Tous n'ont pas le ministère de la parole, vous voyez. Tous ne sont pas apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, vous voyez. Mais il y a toute une sorte, en tant que communauté, il y a toutes sortes de services pratiques dont la communauté a besoin. Tout ne doit pas reposer sur une seule homme, ni même sur un petit nom, parce qu'à un moment donné, il y a un épuisement, vous voyez, il y a même de l'amertume qui s'engage. Chacun peut participer à l'édification du corps de Christ d'une manière, d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, le chrétien âgé qui prie chez lui ou la jeune fille qui garde les enfants pour permettre à une maman occupée d'assister à une réunion, une rencontre, un service aussi important dans l'église que celui qui prêche. Vous voyez, Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas au type de service. Vous voyez. Alors voici une liste de quelques activités pratiques. Vous voyez. La garderie, le chant, la musique, le jardinage, l'accueil. Vous voyez, peut-être le nettoyage, les réparations, les travaux, les visites, l'hospitalité, le transport de personnes. Vous voyez, travail parmi les enfants, aussi au niveau de la sonorisation, au niveau du ménage, tout cela. Donc, Dieu désire que vous puissiez non seulement faire partie d'une communauté, mais que vous puissiez être actif dans une communauté, selon bien sûr, eh bien, vos forces. Selon votre disponibilité, tout cela. Mais vous savez, j'ai réalisé que le temps, eh bien, la gestion du temps, c'est une affaire d'amour et de priorité. Vous savez, on a toujours le temps pour les choses, eh bien, qu'on aime. Quelqu'un dit toujours, pour celui qu'il aime, il a toujours des moyens d'obéir. Celui qui n'aime pas a toujours des excuses pour désobéir. Donc, mettre en œuvre nos charismes. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, quels sont les chrétiens qui ont reçu un don de Dieu? Chacun a reçu un don, une grâce. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Vous voyez, la grâce, eh bien, c'est charisme. Les charismes sont des capacités spirituelles à ne pas confondre avec des talents naturels. Par exemple, un don musical que Dieu peut utiliser, que Dieu peut aussi utiliser par son service. Voyez, quelqu'un peut être, par exemple, professeur des écoles, mais ce n'est pas forcément qu'il a ce don, voyez, ce ministère d'enseignant dans l'Église. Alors, dans Romains 12, versets 6 et 9, concernant les charismes, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Vous voyez, si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi, si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, celui qui enseigne se donne à son enseignement, celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Vous voyez, il y a différents type de service, hein, et nous avons vu qu'on peut exercer l'hospitalité, pourvoir aux besoins des pauvres, aux besoins des missionnaires, voyez, aider quelqu'un dans des tâches pratiques. Voyez. Donc, il est très important, en tout cas, de ne pas rester stérile, de ne pas rester oisif, mais de dire, Seigneur, voilà, tu m'as sauvé, maintenant je veux te servir. Vous voyez, souvent, je rappelle cette histoire de l'apôtre Paul que nous lisons dans Actes chapitre 9. Il a été saisi par, le Seigneur dans cette lumière sur la route de Damas et il pose deux questions. Seigneur, qui es-tu et que veux-tu que je fasse? Vous voyez, je vous invite à réfléchir. Qui es-tu? Ça veut dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux te connaître de plus en plus au travers de la prière, au travers eh bien, de la parole. Mais que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qui veux-tu que j'aille visiter? Quel est le service que tu me demandes de faire dans l'Église? Vous voyez, il y a le don de prophétie, révéler les choses cachées en présentant la vérité de Dieu. Il y a différents dons de générosité, partager ses biens, son temps, vous voyez, pour encourager tel et tel ministère. Il y a le don d'encouragement, stimuler, d'exhortation, stimuler la foi des autres, les conseiller. Le don de bienveillance, réconforter ceux qui sont dans la difficulté en s'édifiant, en s'identifiant à eux, vous voyez. Il y a des dons qui sont visibles, mais des dons qui sont invisibles. Et je vous rappelle que Dieu nous demande simplement d'être fidèle dans les petites choses, voyez. Il est évident que tout chrétien est appelé à partager, à encourager, à diriger sa propre maison. Cependant, nous avons tous une motivation spirituelle profonde, plus évidente que les autres. Chacun a une fonction dans le corps de Christ, voyez. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, tous les membres n'ont pas la même fonction, hein. Et nous avons la responsabilité de trouver, avec l'aide des responsables de l'Église, quelle est notre place dans le corps, en reconnaissant quel charisme, don Dieu nous a donné, en l'exerçant de notre mieux, voyez. Et je rappelle, pour trouver votre don, lorsque vous, par exemple, vous visitez des malades, eh bien, vous êtes heureux. La personne est édifiée et vous portez du fruit, voyez. Lorsque vous faites quelque chose, que le don que Dieu vous a donné parce que vous avez reçu au moins un don, vous êtes dans la joie, vous portez du fruit et les autres reconnaissent votre don. Nous devons aussi respecter les différents dons des autres et favoriser leur épanouissement pour l'harmonie du corps entier, voyez. Nous ne sommes pas là pour être dans la compétition, la jalousie, mais nous sommes là pour nous servir mutuellement. Et je vous rappelle que Jésus est venu pour servir en toute humilité, voyez, et en tout amour. Alors, il nous est parlé des manifestations de l'Esprit. Donc, être un chrétien engagé au travers du service, de la libération de notre don. Mais aussi, nous pouvons nous édifier les uns les autres au travers des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais dans toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit et qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Voyez, il y a la liste des 9 dons du Saint-Esprit, une parole de sagesse, recevoir de Dieu la réponse à un problème qui semble insoluble, une parole de connaissance, quand Dieu donne la révélation surnaturelle, une situation inconnue, une parole de foi, avec l'assurance que Dieu accomplira une chose précise. Des dons de guérison, apporter la guérison, la puissance de guérison du Seigneur à ceux qui sont malades, voyez. Un don de miracle, agir de façon surnaturelle. Un don de prophétie, voyez, de discernement, de langue, tout cela, d'interprétation des langues. Et la Bible nous dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer la voie par excellence. Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie, voyez. Parce qu'au travers de la prophétie, vous exhortez, vous édifiez, voyez, vous consoler les gens. Donc, nous devons rechercher les dons du Saint-Esprit. Voilà. Seigneur, je désire rechercher les dons du Saint-Esprit. Voyez. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. Voyez, pour ne pas être actif, il faut demander des paroles. Voyez, et souvent, par exemple, nous avons besoin de dons des guérisons. Il y a tant de malades autour de nous. Nous avons besoin du don de la foi, le don des miracles, frères et sœurs. Donc, ensemble, aspirons, et ces dons ne sont pas réservés à une élite, à des personnes qui sont une caste ou à une élite, mais ces dons sont réservés pour chacun d'entre nous, voyez. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, voyez. Eh bien, Dieu nous enseigne qui est appelé à participer lors des réunions de l'Église et de quelle façon, voyez. Nous sommes là, alors bien sûr, dans un grand rassemblement, on ne peut pas tous, voyez, mais après, peut-être dans des moments d'apéritif, de repas fraternel, ou, voyez, dans des moments de prière, lorsque, à la fin ou pendant le culte, il y a tout un moment de l'esprit. Il est très important que nous puissions libérer les dons spirituels. Si vous êtes membre de la communauté, il est essentiel que vous apportiez vos contributions. Voyez, quand vous venez à l'église, ne cherchez pas votre chaise, mais cherchez votre frère, votre sœur, cette personne nouvelle. Vous voyez quelqu'un qui est dans la détresse pendant le culte, priez en disant « Seigneur, donne-moi une parole ». Ne prophétisez pas, voyez, des personnes qui se targuent d'être prophètes et qui annoncent. Voyez que la personne va se marier, va changer de travail, va être enceinte. Non, mais édifiez-vous au travers d'une parole de grâce, de vie, voyez. Responsabilité financière, voyez, dans le corps de Christ. Notre attitude vis-à-vis de l'argent est à bien des égards un test de nos vraies priorités. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, et il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ou Dieu et mammon. L'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 10, est en effet la racine de tous les maux. » Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, voyez. « En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Au travers de l'avarice, de la cupidité, au travers du matérialisme, voyez, ce n'est pas un péché selon de la Bible d'être riche ou de l'avoir de l'argent. Ce qui est mal, c'est de s'y attacher notre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et l'apôtre Paul nous dit par rapport au bien matériel, Philippiens 4, 12, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. » Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et être dans le besoin. Voyez, attention, frères et sœurs, à tout matérialisme. Aux riches de ce monde, j'ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous puissions en jouir et que nous puissions aussi aider nos frères et sœurs. Voyez, dans la parole de Dieu, il nous parlait des veuves, il nous est parlé des orphelins, il nous est parlé des pauvres, il nous est parlé aussi, eh bien, de ceux, de la mission, voyez. La Bible nous exhorte à donner à l'œuvre du Seigneur, sachant que c'est Dieu que nous recevons tout, voyez. Dieu est notre source et notre ressource. Les versets qui nous suivent nous disent comment donner. Voyez, la Bible nous dit ceci, il nous faut donner de bon cœur. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Attention à toutes sortes de manipulations, de pressions financières, d'appels d'argent, voyez, qui sont pressants, oppressants. Nous devons donner en proportion de nos moyens. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 3. Donc de bon cœur. 2 Corinthiens 9 7. Nous devons donner d'une manière systématique, régulièrement, voyez. On verra tout à l'heure les dons et les offrandes et les dîmes, voyez. Nous devons, voyez, donner Luc 6, 38 dans la foi en s'attendant à Dieu. Voyez, ne pas donner, voyez, dans la contrainte, mais de bon cœur, avec joie, voyez, selon nos moyens. Dans l'Ancien Testament, les Israélites donnaient le premier dixième, la dîme de leur revenu à Dieu, pour exprimer que tout appartient à Dieu. Et la Bible nous dit que dans Malachie 3:10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction en abondance. Voyez, l'argent, c'est une puissance. Et souvent, nous sommes dans la crainte, dans la peur de manquer. Et lorsque nous proclamons que Dieu est notre source et notre ressource, et que nous donnons, eh bien, une partie de nos revenus de bon cœur, avec joie, sans contrainte, en fonction de nos, voyez, en fonction de nos moyens, dans la foi, alors là, nous libérons la bénédiction. Bien que la dîme ne soit pas explicitement mentionnée dans le Nouveau Testament, il est évident que le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance ne peut pas faire moins que celui de l'Ancienne Alliance. Outre la dîme qui couvre les besoins courants de l'œuvre de Dieu, la Bible parle aussi d'offrandes volontaires. Voyez, au travers des dîmes et des offrandes, au travers des offrandes, eh bien, voyez, il y a toute la notion, eh bien, de la location, du chauffage, voyez, des prêts remboursés, peut-être aussi, voyez, du matériel, toutes ces choses-là. Il y a aussi la notion, eh bien, des ministères, de l'œuvre de Dieu, missionnaire, de l'œuvre parmi les pauvres. Donc il est très important, la Bible nous parle de dîmes et nous parle d'offrandes volontaires. Par exemple, des offrandes pour la construction, pour une offrande, par exemple, missionnaire qui est ponctuelle, voyez. C'est une partie de notre service chrétien que de participer financièrement à l'œuvre de Dieu. C'est une responsabilité importante de gérer ces fonds. C'est pourquoi nous avons une équipe de ministère qui s'occupe de la direction, de la vision, qui a cette autorité spirituelle, et il y a un conseil d'administration qui gère, qui veille, eh bien, à la bonne gestion de ce que, eh bien, vous pouvez amener. Voyez, il y a tout un comptable, un expert comptable, il y a des assemblées générales, il y a des conseils d'administration, tout est en ordre et soumis, eh bien, à la loi associative, eh bien, au culte. C'est une partie, voyez, l'argent donné par les chrétiens est destiné à rétribuer totalement ou partiellement les serviteurs de Dieu, certains dans la communauté, selon la taille de la communauté, pourvoir aux frais de ceux qui nous visitent, soutenir l'œuvre missionnaire, aux dépenses d'évangélisation, aux dépenses d'entretien, de réparation, couvrir les frais de bureau, de téléphone, de transport, voyez. De temps en temps, des appels sont faits pour des offrandes spéciales, achat de gros matériel, travaux importants, besoins missionnaires particuliers. L'argent donné par les chrétiens est destiné à rétribuer totalement ou partiellement les serviteurs de Dieu dans la communauté, voyez, et à ceux, eh bien, que je dis, voyez. Donc, et il y a une gestion de l'argent au travers du conseil d'administration. La Bible nous dit que nous devons répandre la bonne nouvelle. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez, on nous a parlé des dons spirituels pour édifier l'Église, on nous a parlé du service, on nous a parlé des choses matérielles, financières, mais Dieu nous demande aussi d'être des témoins. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous par contre vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez, l'Église est un corps non seulement qui doit vivre mais aussi agir au nom de Jésus-Christ dans ce monde. Jésus, eh bien, a pu dire, eh bien, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez et prêcher à toute créature, voyez. L'Église ne doit pas simplement se rassembler, mais elle doit se répandre, voyez, comme le sel et la lumière du monde, et comme, eh bien, être aussi, eh bien, des témoins, des lettres de Christ. En effet, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, voyez. Et Dieu, il y a un combat spirituel parce qu'il y a une guerre. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsqu'on est nouveau, lorsqu'on est dans cette réalité bien de l'église, il y a une guerre spirituelle parce que nous avons changé de maître, de seigneur et aussi de royaume, voyez. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez, le combat contre les puissances du mal est lié à l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la libération de Jésus. Parce que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Et nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit pour pouvoir avoir de la hardiesse, de l'audace et vaincre la crainte. L'incrédulité, voyez, le témoignage de l'Église n'est pas celui seulement des responsables, des catéchumènes, mais celui de la communauté et de chaque chrétien en particulier, non seulement dans la communauté, mais en dehors de la communauté. Une Église qui n'annonce pas l'Évangile finit rapidement par régresser ou même tomber très bas. C'est pourquoi nous organisons réellement régulièrement, eh bien, des rencontres, venez, voyez, pour que des témoignages soient donnés, pour que l'évangile du royaume, et nous avons aussi des flyers, du matériel à votre disposition pour que vous puissiez être porteurs de vie au travers, voyez, des sites internet, et tout cela, au travers de la radio, vous pouvez être des témoins, voyez. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples est bien augmenté, beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Voyez, je vous demande un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez. C'est avant tout notre style de vie en tant qu'individu, en tant que communauté, qui sera un témoignage puissant pour le monde. Voyez, nous devons, eh bien, toujours être prêts à défendre l'espérance qui est en nous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Voyez, dans notre travail, à l'école, dans la famille, des occasions se présenteront où nous pourrons partager pour notre foi. Déjà autour de vous, priez pour votre environnement. Changez l'atmosphère, voyez, de votre famille, de votre, voyez, lorsque vous êtes dans des repas de famille, lorsque vous êtes au travail. Voyez, il est important d'être rempli du Saint-Esprit, de prier pour l'atmosphère, de bénir ceux et celles qui sont autour de vous. Et demander à Dieu, eh bien, Seigneur, si tu veux aujourd'hui que je puisse être témoin, eh bien, par mes paroles ou par mes actes d'amour, eh bien, ouvre-moi la porte, voyez. Et c'est comme ça que nous prenons de plus en plus d'assurance. Voyez, donc il est très important que nous puissions prier pour ceux et celles qui sont autour de nous. La Bible nous dit que le diable a voilé l'intelligence des gens afin qu'ils ne puissent pas voir briller l'évangile de Jésus-Christ. Voyez, donc il est très important de combattre contre des puissances d'incrédulité, renverser des forteresses de rationalisme, voyez, de raisonnement, voyez, qui sont là contre, je dirais, l'annonce de l'évangile. Et c'est au travers de la prière, eh bien, qu'est la puissance de Dieu. Voyez, dans l'attente que le Seigneur établisse définitivement son règne sur la terre, toute notre vie ici-bas doit avoir pour but de témoigner son royaume dans tous les domaines de l'existence et en ayant la vision donnée par Dieu. Chers amis, Habacuc chapitre 2, verset 14. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer, eh bien, est recouvert par l'eau. Voyez, je ne dis pas que tout le monde sera sauvé, mais Dieu nous demande de semer la parole. Dieu nous demande de démontrer, eh bien, la bonté de Dieu, voyez. Et lorsque, en voyant les œuvres bonnes que nous faisons dans le nom de notre Dieu, alors les gens vont glorifier notre Père. Alors, je termine, et maintenant, beaucoup de chrétiens voudraient être l'objet de bénédictions du Seigneur, mais sans partager les devoirs et les responsabilités qui s'y rattachent. C'est pourquoi je vous exhorte à devenir des disciples de Jésus-Christ, à non seulement aimer Jésus, mais à suivre Jésus dans sa parole, voyez, à obéir, à devenir, à chercher les dons spirituels pour édifier, à vous mettre dans un service, à commencer à vous donner. Voyez, quelqu'un qui est dans l'immaturité, c'est quelqu'un qui va venir pour lui-même. Bénis-moi, Seigneur, remplis-moi plus, guéris-moi. Mais quelqu'un qui est dans la maturité, c'est quelqu'un qui va vouloir être une source de bénédiction. Seigneur, comment je peux être une source d'édification, de bénédiction pour mon frère, pour ma sœur, pour ma famille, pour tous ceux et celles, voyez, que tu vas me donner. Jésus a ordonné à son Église de faire non pas simplement des convertis, des chrétiens, mais des disciples. Et cela implique un engagement total. Cela implique un prix à payer. Et frères et sœurs, la Bible nous dit que l'apôtre Paul dit, de toute façon, la vie est un combat, mais combat, le bon combat de la foi. Vous voyez, de toute façon, la vie est un combat. Et il y a des personnes, même chrétiens, qui sont nés de nouveau, qui essayent de eux-mêmes de s'en sortir par rapport au champ de leur pensée, de bataille de leur pensée, par rapport aux émotions. Ils sont dominés par les circonstances. Mais un disciple, il apprend à gérer ses pensées, à gérer ses émotions, à ce que l'Esprit de Dieu, eh bien, domine sur son âme, et il apprend aussi à combattre, il apprend à pardonner les offenses, il apprend à prier, il apprend à lire la parole de Dieu, il apprend à servir. Voyez, un disciple est là, c'est un engagement, c'est le bon combat de la foi. De toute façon, c'est un combat, la vie. De toute façon, il y a des souffrances. Alors, autant apprendre, traverser ces circonstances, ces souffrances avec Jésus-Christ, en obéissant aux principes de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non seulement Jésus-Christ est mort pour nous, mais Jésus, au travers de la puissance du Saint-Esprit, au travers de la personne du Saint-Esprit, qui est en nous, qui est avec nous, qui est sur nous et qui veut travailler au travers de nous en libérant les dons spirituels, en libérant le témoignage de Jésus, alors vous allez être dans la joie, vous allez porter du fruit, vous allez non pas tourner en rond, être oisif, errant, aveugle et stérile, mais vous allez être heureux de porter du fruit pour la gloire de votre Père, pour la gloire de Jésus. Et c'est pourquoi je vous invite à écouter les différents enseignements, et non seulement à les écouter, mais à les mettre en pratique. À les mettre en pratique. La parole de Dieu nous dit que si nous voulons être un disciple, nous devons payer le prix. Dans Luc chapitre 14, eh bien, au verset 26, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à mon père, à son père, à ma mère, à sa mère, pardon, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça ne veut pas dire abandonner. La Bible nous dit honore ton père et ta mère, occupe-toi de tes enfants, aime ton épouse. Mais ça veut dire la priorité, ça doit être servir Jésus. Vous voyez, sans abandonner notre famille, notre père, notre mère, mais la priorité, c'est Christ. Vous voyez, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Vous voyez, donc il est très important de renoncer à nous-mêmes. Vous voyez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est Christ en moi, espérance de la gloire. Vous voyez, nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses, va nous conduire dans la vérité, voyez. Il va nous rappeler les paroles de Jésus. Et je vous invite, voyez, vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas seul à toutes ces exigences, à ces principes, mais le Saint-Esprit va vous accompagner. C'est pourquoi je vous invite à développer une communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est sur la terre et qui est avec vous, voyez. Alors merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, nous prions maintenant qu'au travers de cette série « Veux-tu être son disciple ?» Eh bien, que nos bien-aimés qui écoutent, eh bien, puissent réellement cheminer, voyez, prendre ce chemin du disciple, de l'obéissance, de la foi, pratiquer ce que nous avons étudié pendant ces six leçons et ainsi être réellement libres. Jésus a pu dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc soyez libres et vivez une vie de liberté.